Bonjour, bienvenue pour une nouvelle visite radiophonique avec Nelly Lafont, chef de projet au Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan. Bonjour Nelly.
Bonjour.
Et Caroline Entregue du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Lozère. Salut Caro.
Bonjour.
Alors les filles, vous m'amenez où aujourd'hui?
Bah écoute, on va te faire une petite devinette, Caro.
Donc on va dans un pays affreux, pelé, roussi, caillouteux, sans verdure et sans herbe, présentant ça et là des sortes de moignons qui voudraient être des arbres, mais qui n'ont rien, je conviens, avec le végétal.
Alors, est-ce que t'as deviné, Ludo ?
J'ai ma petite idée. Allez, on y va.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entregue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.
Bon bah alors Ludo, c'est ce que tu pensais ?
Non, en fait j'en savais rien, Nelly.
Bah ouais, non, mais de toute façon, tu ne pouvais pas trouver où on allait t'amener avec cette description qui n'a rien à voir avec la réalité. On est au Blémard aujourd'hui et il fait très beau. On n'a pas de vent. Il y a un beau ciel bleu de printemps. Donc voilà, la description que Caro nous a lue était une lettre de Pierre Vacher qui écrivait à sa mère le 14 août 1898. Donc on peut voir aujourd'hui que ça n'a rien à voir avec cette description.
Et du coup, Ludo, on est ici sur la place de l'église. Et si on voit le paysage en face, la petite fenêtre de paysage que l'on voit, on voit qu'on n'est plus du tout sur ce paysage nu, agricole, ouvert que nous décrit Pierre Vacher. On est plutôt ici sur un paysage qui s'est petit à petit refermé. Donc on voit sur les pentes les plus fortes un boisement, soit de pins, soit de feuillus. Et ensuite, encore un petit espace un peu bocager, donc c'est-à-dire des champs et des arbres, autour plutôt du village. Mais on est vraiment ici sur un paysage, ce qu'on appelle agro-pastoral. On est entre la Margeride et les Cévennes. On est encadré bien sûr par le mont Lozère, qui est juste face à nous, et derrière le Goulet, à peu près 1497 mètres d'altitude. On est arrosé par un ruisseau qui n'est pas le Lot, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Ici, c'est la Combe Sourde qui traverse le Blémard. On n'est pas très loin du col de Tribes et de la vallée de l'Altier que l'on a visité la dernière fois. Et du coup, ici, le Blémard est traversé par de nombreuses drailles, ces chemins de transhumance qui nous permettent d'aller d'un endroit à l'autre. Nelly peut nous en dire peut-être un peu plus.
Donc voilà, drail, c'est ces chemins qu'empruntent et que façonnent les troupeaux en fait de transhumance, qui peuvent être plus ou moins larges hein, selon l'importance des chemins.
Est-ce qu'on a une idée de l'histoire du Blémard, de son étymologie, de sa création ?
On a une idée de l'origine du nom du Blémard, mais ça reste vraiment à prendre avec de grosses pincettes, puisque l'origine du nom Blémard est une origine un peu inconnue, et on a deux hypothèses. D'abord la première, qui proviendrait du latin « belle », de lumière, clair, brillant, et qui donc voudrait dire, serait dédié au dieu de la lumière, de l'artisanat, du métal, du verre, et notamment aussi du tissage, on en reparlera. Et puis, il y a une autre origine qu'on entend aussi, qui serait celle-ci germanique, et qui viendrait de blé en allemand, blei, plomb, et mar, pays, qui serait donc le pays du plomb, qui pourrait trouver aussi là une accroche locale, puisque on en reparlera aussi. On est ici sur un pays de mines. On reparlera des histoires du mine du Blémard un petit peu plus tard.
Et du coup, il a vu le jour quand, Nelly ?
Alors, c'est difficile. On sait que le secteur, en tout cas, est fréquenté dès le néolithique, puisqu'on a des bornes, on a des menhirs sur le mont Lozère. Donc, fréquenté dès le néolithique, fréquenté aussi à l'Antiquité, à la période gallo-romaine. On a les thermes de Bagnoles pas très loin. Mais c'est vraiment au Moyen-Âge que le village va se développer. On est ici, Carole a un peu évoqué en introduction, au carrefour de voies de communication. On est le long d'axes de communication très importants. On en a déjà parlé aussi quand on a parlé notamment du château du Tournel et du mont Lozère. On est proche de cette voie antique, la voie Sotairana, qui reliait Mende à Villefort. Et puis les fameuses drailles de troupeaux. Donc, on est sur des échanges de communication, des axes commerciaux. Et donc, le Blémar va bénéficier de ça dès le Moyen-Âge. Et puis, juste une petite aparté. Donc, au Moyen-Âge, c'est aussi la période où va s'installer la commanderie de Gap Française, qui date du XIIe siècle, sur le mont Lozère. Le mont Lozère, qui est une terre d'estive pour les troupeaux de tout le Languedoc. Hein. Donc voilà, un secteur qui a une grande importance dès le Moyen-Âge. Et pour finir sur ces voies de communication, donc, peut-être qu'on peut rappeler que le mont Lozère, avec la commanderie, avec ses drails, avec ses axes de communication, est une zone difficile à contrôler, une zone dangereuse. Il faut la surveiller et la mettre en sécurité. Et donc, on est à la frontière, on est aux limites de la baronnie du Tournel. Et on sait que le Blémar était certainement fortifié au Moyen-Âge. Donc, sous quelle forme, on ne sait pas. Par contre, est-ce qu'il y avait un château? Est-ce que c'était un fort, c'est-à-dire un poste avancé sur le domaine du baron du Tournel? En tout cas, on le verra peut-être en se baladant, quelques petits vestiges du Moyen-Âge dans le village.
Et pour rebondir sur ce que dit Nelly, c'est vrai que le Blémar est forgé par ses voies de communication, d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue urbain. Et on est ici face à l'ancienne mairie. Et en fait, le Blémar, on voit bien qu'on a trois rues parallèles. Ici, la rue Haute, qui est juste sur notre droite, qui correspond au chemin de Stevenson, notamment, qui est une rue plutôt agricole, où on va trouver des cours de ferme, on en parlera tout à l'heure, hein, le Couder. En dessous de la mairie, la grande rue, la rue principale, plutôt la rue commerçante. Et enfin, encore en contrebas, la route départementale, la déviation en fait de la grande rue, qui amène une autre époque d'urbanisation. Mais on a vraiment un village comme ça qui est étagé dans la pente et vraiment organisé autour de ces trois rues principales.
On est sur la place de l'église. Peut-être juste deux petites questions rapides sur l'église et sur la mairie qui lui fait face. Sur l'église, il y a une particularité, Nelly?
Alors, cette église, c'est une église 19e qui est vraiment caractéristique de ces églises construites par les architectes diocésiens. Généralement, sa particularité, c'est qu'elle a un clocher qui est accolé à la façade nord, en façade, et du coup, qu'il a des équilibres, mais qui en tout cas lui donne un aspect un peu asymétrique. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que cette église a remplacé un édifice plus ancien qui a aujourd'hui totalement disparu et qui était situé au niveau de l'actuel cimetière. Voilà.
Je m'adresse à l'architecte au niveau de la mairie, Caro.
La mairie, on a une architecture, on a quelques bâtiments assez bourgeois au Blémar, qui datent plutôt du XVIIe siècle. L'ancienne mairie en fait partie. On voit sur la gauche cette grande tour avec des corbeaux en pierre, la toiture en loze qui vient bien sûr du Tournel et les fenêtres de grenier type lucarne que l'on peut deviner. Donc on a plusieurs maisons qui sont intéressantes, dont des bâtiments classés, on y passera tout à l'heure, dont la maison Pétavin, qui est plutôt sur le contrebas du village que nous visiterons tout à l'heure.
Allez, on s'avance dans le village. Ça fait pas partie de la mairie, ça ?
Voilà, la mairie n'est plus là, hein, c'est l'ancienne mairie. Et donc, en longeant les rues sur le côté, on voit ici la façade la plus ancienne. La façade devant la rue a été beaucoup remaniée, mais ici, on voit la tour avec l'entrée de l'escalier, les fenêtres à meneaux et traverses. Qui est la façade la plus remarquable de ce bâtiment de l'ancienne mairie.
C'est privé maintenant ?
Non, c'est l'office de tourisme aujourd'hui.
Juste en dessous, on a la place de la Poste.
On est sur la place de la Poste et on va remonter en fait cette rue commerçante dont Caro parlait et qu'on va prendre le temps de détailler. Juste pour finir, donc au Moyen-Âge, on a à la fin du Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne, le village qui va se développer puisqu'on est dans une période un petit peu plus calme. Et on va avoir ce développement d'un village rue le long d'un axe de communication. Et on va le voir, car on va nous détailler, on va avoir un alignement de façade avec donc ces bâtiments liés à l'activité agricole d'un côté et commerçante de l'autre. On a évidemment au Blémar une grosse activité lainière, comme on a partout dans le Gévaudan. L'activité textile et lainière se développe donc ici au XVIIe siècle, une activité qui remonte au Moyen-Âge et pour laquelle on reproduit les savoir-faire ancestraux, c'est-à-dire qu'on ne va pas, on va pas prendre le train de l'industrialisation après le XVIIe siècle, on va dire. Et évidemment, cette activité, elle est énormément liée à l'élevage ovin dont on a déjà parlé, avec les drailles, les transhumances, tout ça. On sait que tous les paysans ont un métier à tisser chez eux et que les enfants filent à partir de 6 ou 7 ans. Lorsqu'une pièce est faite, une personne de la famille la porte au marché le plus proche pour la vendre. On voit dans les foires et les marchés de Mende et de Marvejols des marchands de Nîmes, Montpellier, Toulouse. Cette production donc part vers l'étranger. Les négociants s'enrichissent, certains ouvrent même des filatures pour développer leur négoce, donc ça on va le voir notamment à Marvejols, mais ça fait le lien avec ce que Caroline nous a expliqué tout à l'heure avec cette maison un petit peu bourgeoise qu'on a vue qui était l'ancienne mairie et la maison Peytavin dont on reparlera. Donc on a une petite bourgeoisie qui va s'enrichir à partir du XVIIe siècle et qui va se faire construire des demeures, des hôtels particuliers ou des demeures un petit peu plus confortables et en tout cas qui montrent leur richesse.
On est place de la Poste, qui est aussi la place du marché ici à Bagnols-les-Bains. C'est la place historiquement commerçante. On a encore ici la boucherie et un magasin. Auparavant, on a pas très loin la boulangerie. C'est vrai qu'aujourd'hui, le cœur commercial s'est un petit peu délocalisé sur la partie qui est à la remise. Mais on a ici, voilà, le cœur commerçant du Blémar. On vendait ici des lentilles, où la culture était pratiquée sur tout le Mont Lozère. Il y en a encore aussi aujourd'hui à Alenc. Tout ce qui est céréales, le seigle et l'orge. Et également tout ce qui est cueillette, la myrtille, les glantiers, les mûres, les framboises. Bien sûr, les fromages liés à l'élevage au vin, avec également la viande, la laine, le lait, quelques charcuteries et également le pain qui était l'élément essentiel de l'alimentation. Aujourd'hui, le marché du coup se passe tous les dimanches matin sur cette place, la place de la Poste.
On va donc emprunter cette rue commerçante. Ce qu'on n'a pas dit en introduction, c'est que ce village va un peu, en tout cas le centre du village va un petit peu se délocaliser avec la construction de la route impériale en 1860, cette fameuse route qu'on emprunte encore aujourd'hui. On en avait parlé à Bagnols-les-Bains aussi, où on avait vu que le centre du village s'était donc petit à petit déplacé vers cette route. Et ben, ça va être un petit peu le cas aussi au Blémar avec cette route et notamment la remise. Alors la remise qui était une étape très importante sur cette route qui va être construite donc à la fin du 19e siècle.
Allez, on va remonter la grande rue. Du coup, vous me parlez de remise. C'est quoi exactement la remise, Caro?
Donc la remise, c'était un arrêt où on avait l'auberge, où on pouvait arrêter les chevaux et dormir.
Et à l'heure actuelle, c'est quoi maintenant?
Alors à l'heure actuelle, c'est le restaurant bar qui s'appelle La Remise.
Qui est excellent, il paraît.
Excellent.
Il y a de l'activité dans cette grande rue, hein?
Ben oui, ça nous rappelle l'activité passée parce que là, on vient de passer, donc on entend la voiture de la Poste qui est en train de... Enfin voilà, le facteur qui fait sa tournée. Et on a une histoire du facteur Boyer qui parcourait entre 30 et 40 km par jour et surtout traversait le Goulet pour desservir après le Blémar, Bellevesée, Chasserades et Saint-Frézal-d'Albuche. Donc voilà, on a non seulement une activité encore aujourd'hui, mais on a aussi ces façades qui nous montre l'ancienne activité commerçante de la rue.
Voilà, une activité avec beaucoup de randonneurs aussi. Et 30-40 km par jour, avec quel moyen de transport ?
Alors, je crois qu'il le faisait à pied et après à vélo. Et d'ailleurs, on sait qu'il l'hiver, il devait coucher dans une auberge. Et en 1895, il demande un défraiement de 50 francs pour ses hébergements. Mais il présente une quittance seulement de 35 francs, donc ça pose problème à sa hiérarchie. On finit par réduire sa tournée. Et donc, l'autre partie dépendra de la Bastide.
Et on peut rebondir sur le fait qu'aujourd'hui, donc, le Blémar, c'est la commune un peu centrale de la nouvelle commune qui s'appelle Mont-Lozère-et-Goulet, dont justement appartient Belvezé-Chasserades. Et Bagnoles-les-Bains.
Allez, continuons.
Peut-être on peut s'arrêter ici, Ludo. On est à côté du gîte du Stevenson et on voit encore tous ces décors peints qui sont assez bien présents sur les façades. Donc on voit café-restaurant, alimentation-mercerie, ici salon de coiffure pour dames, café-restaurant au premier étage. On a également beaucoup de chaînages d'angles, donc de décors sur le côté des façades, typiques voilà, du début du XXe siècle. On est ici devant de belles maisons cossues, les maisons bourgeoises dont parlait Nelly tout à l'heure. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la maison qui est juste derrière, avec cette porte cochère, et qui reflète bien l'implantation assez et la composition assez atypique des constructions du Blémar. En fait, on a des îlots qui communiquent avec la voie, la grande rue sur laquelle on est aujourd'hui, et la rue Haute. Et on a une façade avant qui servait pour les commerces, toutes les façades, on vient de le voir, et ici une porte cochère qui permet d'accéder à la cour arrière de ces maisons qui, elle, avait une fonction agricole. Et donc on voit bien que les gens du Blémar avaient un peu double métier, commerçant, mais qui gardaient tous une activité agricole. Donc on a environ 2/3 de la population qui est commerçante, et qui vit aussi de petits métiers qui se rapportent, voilà, comme disait Nelly, à la fabrication de la laine, aux étoffes, des sergets et des cadis. Et par contre, l'autre tiers s'occupe plutôt des travaux agricoles.
Nelly, peut-être tu peux nous préciser ce qu'est un cadis ?
C'est une forme de drap, de laine.
Donc là, on va s'arrêter à ce carrefour. On a remonté la grande rue. Et du coup, on a sur notre gauche l'ancienne mairie, qui est un bâtiment aujourd'hui vacant. Nous, on va passer sur la droite pour rejoindre la rue du Couder. On voulait ici te montrer deux choses. La première, c'est ces petites venelles, ces petites vues. Donc, c'est des trous dans l'alignement de la rue qui permettent de descendre dans les jardins qui sont en contrebas entre la grande rue et la route principale. On a une série de jardins potagers qui s'inscrivent dans la pente. Et on a, ci et là dans la grande rue, ces coupures qui font passer l'air froid, mais qui font aussi passer la vue, et où on a comme ça des ouvertures sur le grand paysage qui sont assez intéressantes au Blémar. Et on le retrouve de manière assez fragmentée le long de la rue. Et on va s'arrêter juste ici, devant un linteau sculpté, et on va te laisser, Ludo, essayer de déchiffrer le dessin et nous dire ce qu'il raconte.
Alors, c'est un couple qui se lave les mains devant une fontaine. Un bénitier.
Non, et c'est encore. Alors, un indice, donc on est dans l'ancienne rue un peu commerçante, donc artisanat aussi. Donc, quel métier ça peut représenter ?
Sculpteur.
Presque.
Peut-être un peu de son. Ting ! Ding.
Quelle belle imitation, Caro.
Ah, excellent, un ferronnier.
Voilà, un forgeron. On a un forgeron, donc on a l'image de deux petits personnages qui sont en train de taper sur une enclume qui est située au centre. Alors c'est que cette façade, elle est pas très heureuse aujourd'hui parce qu'elle a un crépi,
modification.
Voilà, elle a un crépi assez présent, mais on peut encore deviner donc ce beau linteau qui n'a pas été recouvert et qui devait marquer donc l'emplacement de l'ancien forgeron. On a d'ailleurs sur la façade encore un anneau en fer qui permettait sûrement d'accrocher les bêtes et puis une ouverture en dessous qui devait peut-être marquer l'entrée de la boutique ou de l'atelier. On parlait des façades, donc on a de belles façades avec des chaînages d'angles, des anciennes enseignes. Mais on a aussi de belles boiseries On a de vieilles portes, 19e, avec, avec un décor typique de cette période-là aussi.
This morning.
Donc là, Ludo, on est monté sur la rue du Coudert. Et quand on parlait de ces fameux îlots à la fois commerçants et agricoles, on est ici face à un de ces îlots où on voit une cour ici pavée avec des pierres plates de grande dimension qui devaient certainement servir d'air à battre pour toutes les céréales dont on a parlé tout à l'heure. Et on a plusieurs bâtiments qui peuvent être en L ou en U. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que les étables, du coup, étaient au premier niveau du commerce, en quelque sorte.
Et alors, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on est ici, donc, on est dans le schiste, on va dire, mais on a un petit cos calcaire qui est en contact avec ce schiste, et donc on va le retrouver dans la construction. On a une très belle vue là sur les toits en loze, a priori du Tournel, comme le disait Caro tout à l'heure, mais on voit dans les maisons d'habitation, voilà, le mélange de calcaire, de schiste et quelquefois de grès aussi.
Ouh, il est bien préservé ce fer à doux.
Oui, oui, il est extrêmement bien conservé et il fait évidemment référence à l'activité agricole. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un fer à doux ? C'est un métier à ferrer, mais pas à ferrer les chevaux, à ferrer les bœufs ou les vaches. Pourquoi ? Parce que ça, vous le savez sûrement pas, enfin Ludo, tu ne le sais pas, mais une vache ne tient pas sur trois pattes. C'est pour ça qu'il existe des fers à doux. Et voilà, sinon on ne peut pas les ferrer.
Ah, mais je ne le savais pas.
Eh bien oui, je le dis, c'est pour ça. On a d'ailleurs une très belle photo du fer à doux en train d'être, enfin, où on a un bœuf qui est en train d'être ferré au blémar. Et on a ici, ce qui est caractéristique de ce fer à doux, c'est qu'on a encore toutes les chaînes, toute la ferronnerie.
Le joug également, en bois, qui souvent a disparu avec le temps, mais qui est encore conservé, bien que ce fer à doux n'ait pas de toit. C'est assez remarquable, sa conservation.
Ouais. Ouais, puisqu'on a encore aussi en bois les supports pour les jambes, hein, les genoux du bœuf. Donc, un élément du patrimoine de proximité, du petit patrimoine assez remarquable qui mérite un petit arrêt.
Et quand on parlait de l'agriculture, Ludo, juste en face de nous, les fameuses fenêtres de grenier pour venir stocker le foin, où on voit encore les poulies. Mais c'est vrai que le blémar est vraiment marqué par cette histoire agricole et commerçante. On ne s'y est pas arrêté, Ludo, parce qu'on n'a pas marché assez loin, mais il y a pas très loin un coudert. Ce qu'on appelle le coudert, c'est un courant d'air. Donc c'est un espace souvent en hauteur qui est ventilé sur les drails et les chemins transhumances. C'est un espace public villageois que les gens se partagent et qu'on retrouve dans tout le massif central. C'est une typologie assez intéressante, voilà, d'espace commun partagé à vocation agricole.
Pour y faire quoi ?
Pour parquer les bêtes, pour principalement parquer les bêtes. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que le blémar, au départ, c'est un regroupement de fermes. Hein. Ça, vraiment, la première vocation, c'est la vocation agricole, donc un regroupement de fermes qui va après se développer, notamment avec l'activité lainière, l'activité commerçante et les fameuses mines de plomb qu'on a au Mazel. Pas très loin, qui sont exploitées, on le sait, en tout cas, pas forcément celle-là, mais dans le secteur, les mines sont exploitées dès l'Antiquité, dès l'époque gallo-romaine. Alors peut-être pour dire un mot sur l'activité minière au blémar, donc dans les gisements du blémar et du Mas d'Orcières, pardon, sur le site du Mazel, on a donc l'exploitation du zinc, du plomb et de l'argent. Et donc, on sait que ça va énormément marquer le pays, puisque de nombreux habitants du blémar et des avirons vont travailler dans ces mines et cumuler en même temps l'activité agricole. Ce sont des mineurs paysans. En 1903, la concession est attribuée à la Société des mines du blémar pour l'extraction du plomb et du zinc. On sait qu'en 1910, 200 ouvriers payés de 2 à 6 francs par jour pratiquaient l'extraction de 6000 tonnes de minerais par an. Pendant l'entre-deux-guerres, la plupart des gisements du département sont sur le point d'être épuisés. Cubières et le blémar fonctionnent encore pour le zinc et le plomb. Et puis arrive la crise économique de 1928, qui devient catastrophique. Les mines du blémar ferment de 1932 à 1937. Ensuite, elles vont rouvrir en 1943 pour s'arrêter définitivement en 1953. Et 1953, donc, la fin de l'activité minière va marquer l'exode. Le village va se vider.
Et on a justement dans les textes peu attractifs qu'on a pu te dire sur le blémar, la suite de la lettre de Pierre Vaché à sa mère qui indique que du coup en 1898, de nombreux habitants du blémar et des environs travaillent aux mines et souvent menaient de front une autre activité, notamment l'exploitation d'une petite propriété. Ces doubles journées devaient être épuisantes, d'autant que l'accumulation des poussières de plomb dans l'organisme provoquait parfois l'apparition des redoutables coliques de plomb, autrement dit le saturnisme. Et pour finir cet essor économique, donc comme le disait Nelly en 1953, la mine s'arrête et les habitants quittent un petit peu le blémar. Par contre, est arrivé un nouvel essor économique, qui est l'essor touristique, avec notamment la construction des villages de gîtes, comme il s'en est construit beaucoup dans les années 70 en Lozère. On les retrouve un petit peu partout, on les voit face à nous sur la montagne, de l'autre versant que le blémar, et toujours inséré dans la pente. C'est un ensemble qui est assez remarquable d'architecture contemporaine.
Alors, on n'en a pas du tout parlé, parce qu'on ne peut pas tout dire, mais c'est vrai que là, on est revenu sur la place de l'église, où on a le monument aux morts. On a parlé de l'exode lié aux mines de plomb argentifère. On n'a pas parlé aussi de l'exode et des pertes énormes liées aux conflits mondiaux, hein, notamment la Première Guerre mondiale, qui va être catastrophique pour le blémar. Pour le blémar, c'est une hécatombe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier conflit mondial va être vraiment catastrophique pour la Lozère, puisque 22% des mobilisés lozériens vont décéder contre 17% au niveau national. La Lozère est le département qui a compté le plus de morts par habitant, plus de 4% de sa population totale. Donc c'est énorme même pour des villages ruraux comme on a chez nous. Donc tout ça va énormément marquer le XXe siècle et puis petit à petit donc le village va se redynamiser, va se développer notamment sur le secteur touristique.
Oui, on a parlé tout à l'heure, hein, le village de Gîtes, mais on n'a pas parlé du Stevenson, du développement du Mont Lozère d'un point de vue touristique. Et également, la ville va bénéficier de beaucoup de fonctions de centralité. Donc, on va retrouver voilà, les équipements de sport, une piscine, on va retrouver la salle communale. Donc, toutes ces fonctions un peu support de services publics.
Voilà, on n'a pas parlé non plus de l'école, du collège, de tous ces équipements qui font la vie d'un village.
Et en parlant des habitants, Nelly, on est passé devant la stèle Henri Rivière. C'est qui exactement ce personnage ?
Henri Rivière, c'est un habitant du blémar qui est né dans une vieille famille de notaires et qui fait des études de médecine à Montpellier, puis à l'Académie en 1951. Il devient professeur agrégé d'anatomie à la faculté de médecine de Paris. Et il est auteur de nombreux ouvrages de référence et il est aussi connu pour être spécialiste du système lymphatique humain. C'est d'ailleurs de là que vient le nom du ganglion de Rouvière. En fait, c'est un médecin qui est extrêmement connu dans le milieu médical. Et son livre, un de ses livres qu'on appelle le Rouvière, est une des bibles des médecins encore à l'heure actuelle.
Est-ce qu'on a une actualité sur le village ?
Point de vue actualité, on va dire culturel et d'animation, beaucoup... notamment nous attendons avec impatience le festival d'Olt qui aura lieu en mai le 17, 18 et 19 mai et qui aura pour thématique cette année Oltlywood. C'est dur à dire ça aussi.
Et puis on l'a dit tout à l'heure, mais le blémar est maintenant la commune de Mont-Lozère-Régoulé. Donc plus largement, sur cette nouvelle commune, on a le chantier du Tournel qui prendra fin cet automne et qui devrait pouvoir accueillir de nouveau de nombreux visiteurs sur un site sécurisé et réaménagé.
Voilà. À côté de ça, la commune a lancé de nombreux projets d'aménagement. Voilà, en tout cas, mène une réflexion, une politique de réaménagement du bourg du blémar.
Pas forcément une actualité, mais plusieurs manières de visiter le blémar si vous le souhaitez. Un premier circuit un peu historique dans le village avec des panneaux, avec beaucoup d'informations sur les différents points que nous avons vus et d'autres. Également, l'application Baludique créée par le conseil départemental qui vous permettra de visiter en autonomie le village.
Vous avez aussi la possibilité, tous les étés, de visiter le Blémard, donc avec le Pays d'Arrêt d'Histoire, mais aussi et surtout avec Claude Tessier, qui est un habitant du village, qui fait découvrir donc son village tous les jeudis, je crois, tous les jeudis matin. Enfin voilà, il faut se renseigner à l'office de tourisme pour savoir les jours et les horaires.
On a une anecdote pour Briller en Société ?
Alors, on a une anecdote pour Briller en Société.
On en a deux, alors, à vrai dire.
Voilà, on a parlé du Festival d'Olt, un village qui bouge, dans lequel il se passe plein de choses culturelles. Eh bien, figure-toi qu'au XVIe siècle, il y avait aussi quelque chose de culturel. Est-ce que tu sais ce que c'est ?
Un festival des troubadours ?
Pas tout à fait.
Un certain Jacques de Loubérac, qui était écuyer, dont on savait qu'il menait une vie assez joyeuse, pourrons-nous dire, il se livrait à toutes sortes de dissipations et paraissait même qu'il tenait un tripot.
C'est très culturel, les tripots, à l'époque.
On savait s'amuser. Voilà, donc ça, c'est un texte qui... c'est une mention qui est faite au XVIe siècle, donc en 1567. On sait que l'acte par lequel nous connaissons les faits fait allusion à des danses, à des jeux publics, des cortèges masqués et déguisés, tout cela en dépit des ordonnances royales. Voilà, on était déjà révolutionnaire et anti-système au Blémard au XVIe siècle.
Alors une deuxième anecdote
Alors la deuxième anecdote, eh bien, figure-toi qu'on a parlé de la poste et que on a une mention aussi qui est faite. On a donc ce fameux 19e siècle où il se passe plein de choses, où on a le développement du commerce. On a donc un receveur, le receveur Godefroy, qui décrit le Blémard où il est en fonction à travers un poème. Et oui, on est receveur et poète en même temps au Blémard. Et pour le coup, il n'est pas très heureux au Blémard puisqu'il nous dit « Quand pourrais-je quitter, après tant de soucis, ce sauvage pays témoin de mes ennuis ? D'où 15 fois déjà j'ai vu dans la nuit sombre l'astre au disque argenté brillant au sein de l'ombre, décrivant dans le ciel son monotone cours, 15 fois s'éclipser et renaître toujours. Pour quel crime ai-je été sur cette terre ingrate, exilée des humains depuis si longue date ? Lozère, aride mont, rocher et gorge sombre, pieds blanchis par l'hiver qui projetait vos ombres dans l'étroite vallée où mugit le torrent, qui seul rompt le silence et proteste en passant, et toi, village affreux que Blémard on appelle, mais qu'on devrait nommer la Lutèce nouvelle pour tes charmes ? Non, non, mais pour l'infection qu'exalte les chemins sacrés sous le limon de paysans crasseux, réceptacles barbares, dignes de figurer au bas-fond du tartare bureau, maudit, taudis obscur où l'administration me condamne à languir au sein de l'inaction, impassible témoin de ma longue misère, qui me fût choisi pour prison, pour galère, je vous ai tous maudits. Et je bénis le jour où je pourrai vous fuir sans l'espoir de retour. Amen. Ainsi soit-il.
Eh bien, dis donc, on peut pas plaire à tout le monde. Hein.
Non, mais je pense que voilà, certaines mutations sont difficiles à supporter.
C'est vrai. Mais c'est plus le cas aujourd'hui.
Non, ce qu'on peut dire, Ludo, c'est que du coup, par rapport à cette visite, c'est vrai qu'on a beaucoup de textes qui disent à quel point le Blémard est un pays dur, affreux, terrible, alors qu'en réalité, on l'a vu lors de cette visite, on a beaucoup de choses à voir ici au Blémard.
Il faut imaginer quand même, la plupart des villages sont... Enfin voilà, il faut imaginer des villages qui n'ont pas beaucoup de moyens et de misère. Hein. Donc c'est sûr que les conditions de vie étaient difficiles.
Eh bien, merci beaucoup. On va aller où, du coup, le mois prochain ?
Eh bien, on va aller sentir les bourgeons, humer la forêt et se sentir un peu plus dans le printemps.
On va répondre à l'appel de la forêt. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot-en-Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.